Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Quelques vertus... On avait vu v'là deux et même v'là trois semaines. Hein, ça fait un petit bout qu'on n'était pas sur place. On avait vu la vertu de laquelle, donc? Est-ce que vous en souvenez? Trois semaines, c'est long, hein? L'intégrité. Et ça m'a beaucoup frappé sur moi-même. Puis le Seigneur m'a mis beaucoup d'occasions où... Là, j'avais enseigné là-dessus, puis là, j'avais des occasions de « Oh, c'est pas si grave, puis oh, puis c'est-tu vraiment nécessaire? » Puis je lui dis « Non, écoute, Seigneur, tu me mets à l'idée que j'ai enseigné sur l'intégrité, puis là, même si c'est pas, c'était pas des gros choses malhonnêtes, là, mais c'était juste, puis on prenait la peine de vérifier, d'appeler les gens, d'aller voir, et on était content de le faire, puis finalement, on avait une conscience libre parce que tout était beau, mais au lieu de garder ça, de dire oh, « on n'appellera pas, on ne vérifiera pas au cas qu'on perde ou au cas que ce soit à notre désavantage », donc c'est bon de voir que le Saint-Esprit nous rappelle ce qu'on a entendu. Ce matin, message sur la miséricorde. Et c'est un beau mot, hein, la miséricorde, autant dans les chants, là, miséricorde, c'est poétique, et c'est un mot qui est très, très, très biblique, autant dans l'Ancien Testament, et avec Jésus, ça prend un sens vraiment précis et... où on peut vraiment saisir, comprendre, apprécier toute la miséricorde de Dieu par Jésus. Le sens de miséricorde, bien, tu sais, vous le savez, mais on va être à la même place. C'est dans le sens d'être indulgent, d'avoir de la bienveillance, de la compassion, de la compréhension. Quand tu es miséricordieux envers quelqu'un, au lieu d'arriver puis de condamner rapidement, puis de ne pas prendre la peine de comprendre, puis de te mettre à la place de l'autre, tu arrives, puis tu condamnes, tu juges, puis tu lui dis comment il a tort. Puis même si tu ne dis pas à la personne tout ce que tu penses, parfois on est sans miséricorde par nos jugements, et nos jugements, tôt ou tard, se reflètent dans nos attitudes, dans nos pensées et dans nos actions. Donc, à l'opposé, du fait d'être miséricordieux, on a intransigeant, sans pitié, sévère. Donc, la règle, elle est dure. Tu sais, tu serres la vis, tu ne donnes pas de chance à la personne. Le mot miséricorde, quand on regarde dans le Nouveau Testament, hein, je prends toujours la peine d'aller voir toutes les utilisations du mot, et c'est intéressant de voir qu'à plusieurs reprises, il y a des salutations dans lesquelles on utilise le mot miséricorde. Je ne vous l'ai pas mis comme texte, là, mais je vous lis un exemple, 1 Timothée 1, 2, Paul à Timothée, « Mon enfant légitime en la foi, que la grâce et la miséricorde de notre Dieu, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. » Tout comme on peut faire une salutation avec l'amour, la grâce, la joie, la paix, c'est une grande chose de souhaiter, puis de vouloir donner, puis de prier pour que la miséricorde de Dieu soit en nous et soit avec nous. Je n'ai pas encore ouvert ça. Excellent. Hein, La miséricorde est souvent associée au salut. Dans le salut, on retrouve la grâce et la miséricorde de notre Dieu. Et parfois, dans plusieurs utilisations, ce sont des synonymes dans un sens général, dans le sens que pour dire tout ce que Dieu a donné dans le salut, parfois ça va être utilisé, on a connu la grâce de Dieu en Jésus. Parfois, ça dit la miséricorde de Dieu vous a été donnée. Donc, parfois, c'est juste pour mentionner le salut. En d'autres occasions, on peut faire vraiment une distinction, et sûrement que vous connaissez cette distinction-là. La grâce, Éphésiens 2, 8, 9, la grâce, c'est recevoir quelque chose que nous ne méritons pas. Par exemple, la vie éternelle, le don, le cadeau de la vie éternelle, qui est un don gratuit de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas et que Dieu nous donne, et c'est la grâce. La miséricorde, hein, vous me voyez venir, la miséricorde, c'est de ne pas recevoir quelque chose que nous méritions. Donc, ce qu'on méritait à cause de notre faute et à cause de notre rébellion, c'est la séparation de Dieu, c'est la punition éternelle. Donc, Dieu est miséricordieux en ne nous donnant pas ce qu'on mérite. On vient de faire une heure et plus sur l'autoroute 20 et si un policier qui fait du radar sur l'autoroute, on peut dire qu'il est miséricordieux envers nous lorsqu'il nous intercepte je connais pas vos habitudes de rouler, puis je veux pas scandaliser personne, mais on va dire si vous roulez à 110 km/h ou encore jusqu'à 115, là, vous êtes dans ces eaux-là, puis vous passez, puis là, il y a un policier qui est très bien caché, puis vous le voyez, puis là, vous avez un petit pincement au cœur. Ah, il bouge pas. Non, je suis correct. On peut dire qu'il est miséricordieux parce qu'il ne nous donne pas une amende que on aurait méritée. Et on sait au Québec, hein, le seuil de tolérance, là, ils disent souvent, c'est 118. Dépasse pas 118 parce qu'après, tu risques d'en avoir, mais en bas, c'est rare. Si vous roulez et que vous dites, écoute, je suis pas pressé, le soleil est beau, puis je roule à 102 km, vous passez devant un policier puis qui vous arrête de dire, monsieur, madame, vous rouliez à 102 km. Oui, mais d'habitude, il t'en a. Qu'est-ce qu'il serait? Il serait juste. Il ne serait pas injuste. Mais on peut dire qu'il ne serait pas miséricordieux. Là. Il ne vous a pas donné une chance. La miséricorde, c'est de ne pas punir durement, ne pas condamner ou juger sévèrement les autres. On va commencer avec deux passages dans Matthieu où Jésus lui-même dit « Je prends plaisir à la miséricorde. » Peut-être en arrière, Sébastien, si tu peux m'aider. Excellent, merci. Donc, on va lire ce premier passage. Matthieu 9, versets 10 à 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Pour se mettre dans le contexte des publicains, hein, c'est des collecteurs de taxes qui travaillent pour le compte de Rome. Donc, c'est des Juifs qui sont des compatriotes avec toi, qui sont la nation d'Israël, mais eux, ils ont décidé de travailler pour le compte de Rome. Ils étaient considérés dans la société comme des traîtres qui travaillaient pour l'oppresseur. Et le privilège d'être un collecteur de taxes pour Rome, c'est que Rome, il demandait un certain montant pour chaque passage, pour chaque endroit où les taxes étaient collectées. Mais Rome disait, écoute, à partir du moment que moi j'ai mon montant, ce que tu demandes, ça ne me regarde pas. Donc certains, pour ne pas dire la plupart des collecteurs de taxes, chargeaient plus cher et s'en mettaient dans les poches et devenaient très riches. Donc on s'imagine qu'ils n'étaient pas appréciés dans la société. Et ils avaient la compensation financière, mais ils subissaient le mépris et en partie avec raison du fait qu'ils étaient malhonnêtes. Donc ça, c'est les publicains. Les pharisiens regardaient ces publicains-là, la société les regardait et les méprisait. Deuxième catégorie de gens qui allaient à Jésus, c'est les gens de mauvaise vie. Et évidemment, c'était des prostituées qui étaient méprisées et vraiment rabaissées dans une société religieuse avec tout l'Ancien Testament comme mesure, qui était l'enseignement de la parole de Dieu, qui disait que la sexualité, il y a des règles et quand tu y vas au niveau de la prostitution, bien tu sors en dehors des règles qui sont encore les mêmes dans le Nouveau Testament. Donc, ces gens-là étaient méprisés et Jésus là, les accepte, les accueille et n'exerce pas un jugement sévère. Ce que Jésus savait sur ces deux catégories d'individus, c'est qu'ils avaient une mauvaise conduite. En même temps, ils avaient une bonne attitude. Et la bonne attitude qu'ils avaient, c'était l'humilité. Ces gens-là, en particulier, reconnaissaient leurs conditions et leurs besoins. Et ils sentaient le mépris de la société. Mais quand ils écoutaient parler Jésus, quand ils le voyaient, ils allaient vers lui. Puis Jésus les acceptait. Donc, on exerce la miséricorde en accueillant les gens, en acceptant, en tendant la main à des gens qui, à cause de leur conduite immorale, ne le méritent pas. Ça s'applique bien envers les non-croyants, les gens qu'on peut côtoyés en dehors de l'Église, qui ont des habitudes de vie différentes des nôtres. Des habitudes de vie qui peut-être nous dérangent, nous mettent mal à l'aise, ou qu'on pourrait regarder ces gens-là puis dire, écoute, j'ai dit bonjour, là, mais tu sais, pas plus, parce que j'apprécie pas ce qu'il fait dans la vie, puis je m'associe pas du tout, donc il peut avoir un mépris et un rejet de ces gens-là. Ça veut dire qu'avec notre regard de chrétien qui cherche la sainteté pour nous, en exerçant la miséricorde, on est aussi capable de regarder ces gens-là avec bienveillance, avec indulgence, ces gens-là qui enfreignent nos valeurs morales. Wow! Hey, c'est pas facile, hein? Je ne sais pas si vous voyez les implications de tout ça, mais on se sent un peu tiraillé, on ne sait pas sur quel pied danser, on s'en fâche, on dit, bon, ben si je suis gentil, puis je m'approche, peut-être que je vais devenir son ami, mais non, écoute, c'est pas une bonne fréquentation, hein, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, les mauvaises compagnies, nous dit la Bible. On ne sait pas comment faire ça, mais Jésus, il le savait. Et Jésus nous l'enseigne dans les évangiles. Comment concilier les deux? Avoir de la miséricorde sans être influencé négativement pour avoir une conduite qui n'est pas agréable à Dieu. Donc, Jésus était capable de dire, « Je prends plaisir à la miséricorde. Je suis venu, non pour perdre, mais je suis venu pour sauver. Je ne suis pas venu pour condamner. Je suis venu justement parce que ces gens-là, ils ont besoin de compassion, d'amour, ils ont besoin de la miséricorde, ils ont besoin de la grâce. » Et Jésus, en étant ses disciples, c'est ces valeurs-là qu'il veut qu'on aille. Il veut qu'on ait des entrailles de miséricorde. Deuxième passage, Matthieu 12. Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Et là, Jésus commence à leur expliquer, « Oui, mais n'avez-vous pas lu dans l'Ancien Testament ce qu'a fait David hein, quand il était poursuivi, puis qu'il était affamé, puis comment il est arrivé, puis il a pris les pains de proposition qui étaient là pour être offerts pour le service de Dieu. C'était des choses saintes qu'il n'avait pas le droit de manger, puis il l'a fait. » Fait Jésus leur fait voir, « Écoute, ça ne marche pas, vos petites règles, là. » De dire c'est le sabbat, t'es affamé, t'as pas le droit de manger. Et Jésus termine en disant, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Une autre situation dans laquelle les pharisiens qui étaient les chefs religieux, ils étaient vraiment les enseignants de la vérité de Dieu. Ils enseignaient la parole de Dieu. Et Jésus, en Matthieu 23, a même dit un petit compliment, hein, c'était une petite fleur avant le pot. Il disait, écoutez-les et faites tout ce qu'ils vous disent, parce que au niveau de l'enseignement, quand il enseignait la parole de Dieu, l'Ancien Testament, il disait la vérité, mais ils disent et ne font pas. Donc, eux, les pharisiens, ils exerçaient ici, dans cette situation-là, un jugement injuste. Ils condamnaient les disciples de Jésus, les apôtres qui étaient avec Jésus, et quand il n'y avait rien fait de mal. Tantôt, on disait que les publicains et les mauvaises vies, que c'était des gens qui avaient une mauvaise conduite, mais une bonne attitude, qui était l'humilité. Et à l'opposé, on peut dire que les pharisiens étaient des gens qui avaient une bonne conduite la plupart du temps, mais une mauvaise attitude qui était l'orgueil. Ils étaient hautains, méprisants, imbus d'eux-mêmes. Ils regardaient les gens de haut en disant, « Hey, eux là, c'est rien que des pécheurs. Nous, Dieu, tu nous vois, puis on agit comme il faut. On l'a l'affaire. » On exerce la miséricorde en mettant de côté nos principes élevés, nos pratiques légalistes que l'on veut imposer à tout le monde. Et ça, ça s'applique très bien envers les frères et sœurs dans le Seigneur qui ont des convictions et des habitudes de vie différentes des nôtres. Et la grande difficulté, c'est de garder pour nous ces hauts standards et ne pas l'exiger des autres. Dieu nous donne la liberté de croyance et la liberté de conscience. Ça veut dire qu'on cherche à plaire à Dieu en tant que croyant. Ça veut dire qu'on lit la parole et on veut obéir de cœur. Et quand on lit la parole, on dit, parce que je lis telle chose et que je le comprends de telle autre façon, je vais agir comme ça dans ma vie. Et là, tu y vas, puis tu obéis au Seigneur et tu prends des décisions sur tes actions, la façon que tu vas vivre pour Dieu. Le problème, c'est que toi, tu décides de vivre comme ça, puis il y a un frère, une sœur qui ont l'air à aimer le Seigneur autant que toi, mais ils n'agissent pas comme toi, puis toi, tu mets la barre là, puis eux, leur barre est là. Et là, tu n'es pas content contre eux, et là, on peut manquer de miséricorde. On peut être en train de les juger et de les condamner. On a besoin d'apprendre à faire ce qui est bien pour nous, devant le Seigneur, avec joie, sans l'imposer aux autres. Quand je pensais à ça et l'application dans la vie chrétienne, je ne pouvais pas m'empêcher de retourner au moment de ma conversion en 1983 à l'église de Québec, la ville où Sylvie et moi, on a accepté le Seigneur et la ville qu'on est originaire et qu'on a été là jusqu'en 1989. Et à ce moment-là, au niveau de jugement et de manque de miséricorde, la présence aux réunions était un grand enjeu. Et dans le temps, ça commençait le dimanche matin. Dimanche matin, il y avait l'école du dimanche, un enseignement sur un sujet précis, approprié. Tu pouvais choisir ton cours. Il y avait une grande église de 200, 300. Tu avais beaucoup d'options. Donc, c'était important d'être à l'école du dimanche. Après l'école du dimanche, il y avait 5 minutes de pont, tu avais le culte. Et là, ça durait 1h30, donc tu ne voulais pas manquer le culte du dimanche matin. Et après, il y avait le dimanche soir que, écoute, il fallait se faire un devoir d'être là le dimanche soir. Et les couples, ils disaient, s'il y en avait un des deux dans le couple qui n'était pas là, c'est qu'il y avait des jeunes enfants qui était à la maison, qu'il fallait coucher tôt, puis mais c'était certain que les deux n'allaient pas rester à la maison. Là. Il y en avait un des deux, puis tu sais, on disait, « Oh non, hey, cette semaine, c'est moi qui est venu, ma femme est restée à la maison, mais la semaine prochaine, c'est elle qui va venir. » Et quatrième réunion, c'était la réunion de prière du mercredi soir qu'il ne fallait surtout pas manquer. Donc, j'ai grandi dans cette façon de penser-là. Et je me souviens d'un événement où le pasteur principal, qui est un homme de Dieu, un dimanche matin, voit un couple fidèle qui est devant 200, 300 personnes. Il se permet de dire, « Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Ah, oh, ben, M. Cassidic, on a été 2 semaines en vacances, là, ça m'a paru plus long que ça. » Mais là, ça envoyait un message à tout le monde, là, que, « Hey, vous avez besoin d'être là, là. » Donc, il y avait une pression. C'était en même temps des bonnes habitudes de venir à l'église. Et après ça, c'est moi qui ai devenu pasteur en 89. Et là, on avait encore ces 4 réunions-là, et comment j'agissais, tu sais, je voulais que les gens grandissent, je voulais que l'œuvre de Dieu avance, qu'on s'encourage les uns les autres. Donc là, moi, là, c'était à mon tour en tant que responsable de dirigeant, un des pasteurs de l'équipe pastorale, de dire comment je vais agir. Donc, il y avait une forme de pression, un jugement qui pouvait vraiment freiner la liberté de croissance et freiner aussi cette conscience libre qu'on a devant Dieu de dire, Seigneur, j'aime aller à l'église, puis j'aime voir mes frères et sœurs, puis à chaque fois que j'y vais pour toi premièrement, puis je suis béni. Et Jésus a terminé son discours en disant quoi? Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde », vous n'auriez pas condamné des innocents. Et je pensais, en 25 ans de pastorat, où j'étais le pasteur la plupart du temps principal, puis comment j'ai pu mettre de la pression sur les gens, puis comment j'ai pu faire sentir mal des gens, puis condamner des gens que certains que le Seigneur ne condamnait pas. Donc, c'est à cette attitude d'humilité, de bonté, de bienveillance, à cette attitude de miséricorde que le Seigneur nous appelle. Et une des clés, une des choses qui me faisait vraiment réfléchir, c'est de voir comment chaque époque a ses valeurs. Et si une valeur vient vraiment de Dieu, elle va perdurer dans le temps. Donc, ce qui est vrai en 83 va être vrai en 2003. Ce qui est vrai en 89 va être encore vrai en 2019 ou en 2022 qu'on arrive là. Les vraies valeurs de Dieu qui sont en delà de la culture demeurent toujours. Hein, Sébastien, je vais avoir besoin de toi. Prochaine image. Merci. Matthieu 7:2. Est-ce que j'ai les versets de ça? Ah oui, OK. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7, 1 à 2. Jésus, dans le discours sur la montagne, dit, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et un autre verset qui va avec la même idée, dans Jacques 2, versets 12 à 13. « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Wow! Ces deux versets-là nous donne un coup, hein? Moi, ça m'en va droit au cœur de dire, Richard, avec tes principes, avec tes valeurs, avec le fait que tu veux défendre des fois la vérité de Dieu, tu veux défendre l'honneur de Jésus, est-ce que, en voulant faire une bonne action, tu en fais une mauvaise qui est aussi grande, sinon plus grande? Et la parole de Dieu nous dit que on va prendre la mesure que l'on prenait avec le même degré de sévérité ou de bonté. Tu as été indulgent, compréhensif envers ton prochain, mais Jésus nous dit que lui, il va être indulgent et compréhensif envers nous. Tu as été dur et implacable, sans pitié envers les autres, envers les non-croyants, envers tes frères et sœurs. Tu as osé leur dire, écoute, quand tu fais ça, c'est pas ce que Dieu veut. Tu es bien trop lousse. Tu n'es pas en train de mettre Dieu en premier. Tu es un chrétien mondain. On est en train de les condamner injustement. Bien, Jésus nous dit qu'il va prendre la même mesure, il va appliquer la même médecine. Tu serres la vis pour les autres. Les autres vont faire un quart de tour avec toi de plus. C'est dans la nature, hein? Quelqu'un qui est bon, qui est tolérant, on voit qu'il fait des manquements, on dit, écoute, il n'est jamais en train d'être sur notre dos puis nous reprocher plein de choses. Écoute, il y a une petite chose qu'on pourrait dire, écoute, il nous donne plein de chances, on va y en donner ça. On ne réfléchit même pas, ça se fait instinctivement. Mais si on met la barre haute pour les autres, quand nous, on va sembler ne pas atteindre ce standard-là, les gens vont se faire un plaisir. Hey, toi qui nous disais qu'il fallait toujours avoir 3 sur 4 aux réunions, là, il me semble que ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas vu. Là. Il est où ton 3 sur 4 que tu nous mettais sur les épaules? Là? Tu donnes une chance aux autres, généralement, ils vont t'en donner une. Être miséricordieux, c'est premièrement se faire du bien à soi. Premièrement, les gens autour de toi vont être moins sévères la plupart du temps. Il y a toujours des gens que, même si tu es miséricordieux, qu'ils ne sont pas avec toi et il n'y a rien à faire, on passe à côté, on passe par-dessus. Mais ensuite, le gros avantage, c'est qu'on va être moins exigeant envers nous-mêmes. Et on a toute une personnalité différente. Il y a des gens qui sont sévères envers les autres, mais qui veulent être conséquents, puis intègres, puis qui se disent, écoute, si je demande aux gens là, ben moi, je vais être au moins un petit peu plus haut, puis un petit peu plus sévère, parce que je veux être conséquent. Et la vie devient tellement lourde, difficile, hein? Pour prendre l'expression de proverbe, notre vie devient comme une haie de j'oublie le nom, là, une haie où il y a des épines, là, où surtout tu avances, puis tu as toujours les épines qui te piquent, puis ça fait mal, puis c'est dur, puis c'est lourd, puis c'est difficile. On est les premiers bénéficiaires de notre miséricorde. Parce qu'on va avoir de la grâce aussi pour nous-mêmes. Donc, c'était la mesure dont vous mesurez. On continue. Le beau petit verset clé qui nous revient face à la miséricorde, hein, c'est dans les Béatitudes, dans Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car... Non, c'est pas « ils hériteront de la terre ». Ça, c'est « heureux les débonnaires ».« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Wow! Tu es rempli de compassion, de bonté envers les gens. C'est ce que tu vas recevoir. Matthieu 7, 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. L'essence de tout l'Ancien Testament, à ce moment-là, quand Jésus le disait, l'essence de la parole de Dieu, c'est que de la façon que tu veux être traité, bien, traite les gens de la même façon. Et ça nous met vraiment face à nous-mêmes l'aspect de se mettre à la place de l'autre, d'agir comme si c'était nous. On aime tellement notre conjoint et on aime tellement nos enfants. Hein? Nos enfants, en tant que parents, les deux dans le couple, on se sent un besoin de prendre soin, un désir de protéger, on se sent responsable devant Dieu de veiller à ce qu'ils soient bien traités. Si quelqu'un vient puis est dur envers eux, bien, on dit, hey, dis pas ça à mon enfant ou agis pas de même. On est là pour les protéger. est-ce qu'on agit envers les autres comme si c'était notre propre enfant? Est-ce que je dirais ça à mes enfants? Est-ce que j'apprécierais que mes enfants, que je veux prendre soin, que quelqu'un leur dise ça? Ben non. Ben tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, pour vos proches, agissez de la même façon. Le problème, c'est que le propre juste se dit que lui, il ne se retrouvera jamais dans cette situation-là, parce que lui, il obéit à Dieu, puis que lui, il fait des bons choix. Finalement, il y a une condamnation parce qu'il croit que l'autre reçoit ce qu'il mérite. Quand on voit des gens qui ont des problèmes de drogue, de consommation, problèmes d'alcool, on peut se dire, ben, écoute, moi, la parole de Dieu me dit de ne pas m'enivrer, que c'est de la débauche, ça fait que j'obéis à la parole de Dieu et j'en prends pas, puis tu vois, je suis sobre, puis j'ai pas de problème. Propre juste, qui regarde les autres de haut, qui dit, moi, ça va bien, donc toi, si tu as des problèmes, c'est de ta faute. Ceux qui ont des problèmes de jeu, ceux qui sont dans la pauvreté continuellement, ceux qui ont même des problèmes de criminalité, qui sont allés voler un dépanneur, puis qu'il y a eu de la violence, puis on se dit, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont à agir comme ça? On les regarde de haut, puis on dit, ils ont juste à pas le faire. Pas de compassion pour eux, un jugement dur et impitoyable. Pas capable de se mettre à la place de l'autre, d'avoir un peu de bonté, un peu de compassion. Et pendant que je préparais ça cette semaine, j'écoutais l'histoire d'un joueur de hockey qui a joué juste quelques matchs dans la Ligue nationale, mais on voyait toute son histoire, puis comment dès l'âge de 12-13 ans, il était pris déjà dans l'alcool, puis comment il était dans un enfer. Et je vous dis, c'était tellement touchant que je pleurais tout le long du reportage. Et on voyait que cette personne-là, c'était une personne normale qui était dans des conditions qui n'étaient pas propices. Et sa vie est partie en vrille. Et le courage qu'il a eu, c'est extraordinaire. Donc, on devrait avoir de la compassion pour les gens et être là pour leur tendre la main. On se souvient de la parabole du serviteur impitoyable. Je vais le lire, puis je vais vous laisser regarder les images. Hein. Dans Matthieu 18, 23, ça dit, et c'est une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte, un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs, et on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Et juste pour vous dire, 10 000 talents, là, c'est l'équivalent de 10 à 20 millions de dollars pour nous aujourd'hui. Donc, dans l'histoire, le chiffre est grand pour dire que c'était impossible qu'il rembourse. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience avec moi et je te paierai tout. » C'était impossible. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et la valeur entre la dette qui lui avait été remise puis la dette que lui devait ce compagnon-là, c'était 1 pour 100 000, là, ça n'avait aucune mesure commune. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Qu'est-ce que tu me dois? » Son compagnon se jetant à terre, le suppliant, disait, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Quand on est en prison, ça va mal pour rembourser. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » C'est pourquoi on l'appelle le serviteur impitoyable. Aucune pitié, aucune compassion, aucune compréhension alors qu'on avait eu envers lui. On a tendance à être dur envers ceux qui sont durs, hein? Ici, il avait bénéficié de bonté et il a été tellement dur que dans l'histoire, hein, Jésus voulait amener l'histoire pour amener une leçon. Mais dans l'histoire, c'est correct qu'on agisse comme ça. Pour nous, il y a un sentiment d'indignation quand on lit une histoire comme ça, quand on voit des situations où il y a une indignation face à l'injustice, et c'est normal de ressentir ces émotions-là, mais une fois qu'on les a ressenties puis qu'on laisse la poussière rabaisser, il y a aussi un temps pour briser le cycle de condamnation sévère en faisant preuve de miséricorde. Dans Jacques 3,7, ça nous dit que la sagesse d'en haut est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de, vous l'avez, miséricorde. Le Seigneur désire qu'en nous, il y ait ces qualités. Dans Romains 1,31, ça dit, ça parle de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. C'est le genre de qualité du cœur qui vont ensemble et qui se rejoignent. Et on a besoin de retenir que la miséricorde est certainement une qualité et une vertu que le Seigneur souhaite voir grandir dans nos vies. On est tous différents. Quand il y a un médicament, quand il y a une solution à un problème, la quantité de médicaments qu'on va donner va dépendre de l'état de santé de la personne, vous comprenez? Et il y a des gens, peut-être, qui nous écoutent, que la miséricorde, ils l'ont déjà à 100%, ils l'ont déjà dans le tapis. Et eux, ils ont plus besoin de faire preuve de jugement et de ne pas être trop bonasse. Et il y a des gens comme ça. C'est pas mon cas. Moi, je suis beaucoup plus du côté de regarder la situation puis de dire, écoute, moi, c'est pas fort son affaire. Puis il me semble que c'est lui qui se met dans le trouble. Puis peut-être que j'irai pas au point de le dire à la personne puis de l'attaquer puis de le condamner verbalement, ouvertement, mais intérieurement, moi, j'ai besoin d'une bonne dose de miséricorde. Un autre passage. À la suite des béatitudes dans le discours sur la montagne, il y a toute cette série que Jésus a dit en Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. » Donc, je ne suis pas venu pour dire l'Ancien Testament, c'est fini. Je suis venu en ma personne par le salut puis par mes valeurs pour amener ça à l'idéal du début qui était là, pourquoi Dieu a donné ces règles-là. Donc, à 5 reprises, Jésus dit, « Vous avez appris, il est écrit, vous avez lu qu'il était dit ça, mais moi, je vous dis pas seulement ça, mais encore plus pour atteindre le but visé. » Et une de ces 5 phrases où ça dit « vous avez appris » est celle qu'on a ici qui est par rapport à la justice et à la miséricorde. Donc, en Matthieu 5, on prend le temps de lire ce passage. Jésus qui dit, « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent. » Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider avec toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 mille, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. On a fait toutes sortes de choses avec ce passage-là. Hein? On l'a compris, interprété de toutes sortes de façons dans tous les sens. Hein? Quand j'ai accepté le Seigneur au début de ma vie chrétienne, là, ça me frappait. Hein? Si quelqu'un te frappe la joue droite, tu lui présentes l'autre. Donc, comment, tu sais, de ne pas me venger, de ne pas répliquer, mais comment je vais mettre ça en pratique? Faire 1 mille, en faire 2 mille, si c'est pas bon que je fasse 1 mille, pourquoi j'en ferais 1? On ne savait pas vraiment comment mettre ça en pratique. Voici quelques principes pour bien comprendre ce passage. Dans l'Ancien Testament, ce que Jésus fait référence, œil pour œil, dent pour dent, ça vaut la peine de le lire au complet. C'était une règle de justice. Quand ça disait œil pour œil, il y a l'exemple que tu frappes ton serviteur et tu lui fais perdre un œil. Bien, tu lui as fait perdre un œil, ça a une valeur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez la conséquence, le corriger le tort qui avait été fait, le serviteur allait devenir libre pour ça. Waouh, parce que ça avait une valeur. C'est la même chose. Si tu causes la perte d'une dent, mais tu vas compenser pour la justice avec une valeur équivalente. Ce n'était pas une vengeance. Hein? On voit souvent ça dans les films là, qui disent « Moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il m'a fait tel tort, je vais lui en faire 10 fois plus. » C'est pas de la vengeance, mais c'est de la justice au niveau de la valeur des pertes. Dans le passage, ça dit si tu as creusé un trou puis que tu ne l'as pas couvert puis qu'il y a le bœuf de ton voisin qui tombe dedans puis que le bœuf meurt, ben tu vas lui redonner un bœuf semblable de la même valeur puis toi, tu vas prendre la carcasse puis tu feras ce que tu voudras avec. Donc là, c'était bœuf pour bœuf. La valeur, la même valeur. Donc, Jésus, ce qu'il veut amener ici, c'est l'accomplissement parfait de la loi. Puis, c'est que tu puisses aller un petit peu plus loin que la justice pour t'entendre. Tu penses que 1 000 $ serait un bon dédommagement pour la perte matérielle que tu as causée à quelqu'un, bien, pour t'entendre, offre-lui 1 100. Pourquoi? Pour t'assurer que ce n'est pas toi qui es en train de voler ton voisin, ce n'est pas toi qui es en train d'être injuste. Fais ce pas-là. Imaginez quand 2 personnes ont cette attitude-là de dire, écoute, je te donne 1 100, là, ça le vaut. L'autre dit, non, il était vieux, il était usagé, donne-moi 900, ça va être correct. Non, tu sais, il va falloir que tu le remplaces, tu vas avoir des frais, ça va te prendre du temps. Ben, on s'entend pour 1 000, hey, c'est parfait, merci, tu es très généreux, oh, je suis très satisfait. Les deux ont l'attitude de justice que le Seigneur voulait. On a besoin de faire attention quand on a une attitude de miséricorde de compassion, quand on est de bonne foi et on n'est pas là pour être dur puis exploiter l'autre puis abuser de lui, le danger, c'est que l'autre personne abuse de nous. Et le Seigneur nous donne cet enseignement-là, hein, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On a notre bout de chemin à faire. Mais le Seigneur, en même temps, veut qu'on soit lucide. Puis si c'est quelqu'un qui est hors de sens, puis qui est là juste pour abuser de l'autre, et le Seigneur ne veut pas que tu donnes tout ce que tu as à ce genre d'individu, vous pouvez vous retirer en paix et dire, j'ai fait ce que je pouvais. Donc, il y a un équilibre entre le fait d'être miséricordieux, compatissant, d'être de bonne foi, de se mettre à la place de l'autre, le tort que ça lui a posé. Il y a un équilibre entre la miséricorde et la justice. Et le Seigneur nous demande, fais juste, assure-toi que ce n'est pas toi qui es en train d'exploiter l'autre. Mets-toi à sa place, aide la compréhension, et quand tu l'auras fait, c'est correct. Tu peux faire 1 000 de plus, tu n'es pas obligé d'en faire 10 ou 100. Être et devenir miséricordieux ne veut pas dire qu'on met de côté la justice. Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas besoin d'être responsable. Si ton employeur s'attend à ce que tu sois là à 8 heures et que au travail, puis que là, ça fait plusieurs fois que tu arrives à 8h10, 8h20, 8h30, c'est pas à toi à dire, ben regarde, il pourrait avoir un peu de miséricorde envers moi, là, tu sais, ça arrive dans la vie. Mais ça arrive souvent juste à toi, puis tu prends pas les mesures pour arriver à l'heure. Là, lève-toi un peu avant, donne-toi une marge de manœuvre pour. C'est ta responsabilité d'être là à l'heure. Ça ne veut pas dire non plus que si tu es en responsabilité et tu as des gens sous ta charge, que tu ne peux pas parler des situations, tu ne peux pas parler des erreurs qu'ils ont faites ou des manquements qu'ils ont eu envers toi. Donc, il y a une place où c'est pas juste de la miséricorde. Hein? Il y a toute une série de valeurs qui sont dans la vie chrétienne. Et oui, de la miséricorde, mais la vie continue. Il y a des besoins, il y a des exigences et on se doit d'être fiable et d'être responsable. Sinon, ça deviendrait l'abus et le désordre complet. Et quand on parle de miséricorde, c'est encore moins d'accepter et de fermer les yeux sur les mauvaises actions des gens, que ce soit de l'abus de toutes sortes, que ce soit de la méchanceté de la part des forts et des puissants de la société. On ne regarde pas celui qui exploite tout le monde, on dit on va avoir de la miséricorde pour lui. La miséricorde s'applique le plus souvent envers les faibles, envers les démunis. Parce qu'eux, ils n'ont pas de pouvoir pour se défendre. On peut les accuser injustement, ils sont des cibles faciles. Et la miséricorde doit aller envers eux. Parce qu'on sait qu'ils sont sans moyens. Ça veut dire qu'on doit faire preuve de compréhension, de souplesse, avant de condamner rapidement notre prochain. On peut prendre le temps de poser des questions. On peut prendre le temps d'écouter et ensuite de réfléchir pour mettre tout ça ensemble. Et après, on pourra réagir avec justice et équité, et selon l'expression de Jésus, on n'aura pas à ce moment-là condamné des innocents. Que serait notre monde sans miséricorde? Le monde a terriblement besoin de plus de miséricorde. Et que serait notre monde présent si, dans le passé, il avait fait preuve d'un peu plus de miséricorde, ou même juste d'un peu de miséricorde? Et je termine avec cet exemple-là. À la fin de la Première Guerre mondiale, 14-18, a été signé le traité de Versailles. Hein? Et ça a été signé le 28 juin 1919. Et ça a été signé, ça, entre l'Allemagne principalement et l'ensemble des pays qui étaient les alliés, dont la France, les États-Unis, le Canada aussi, mais on était moins impliqués à ce moment-là. Et le président des États-Unis, Woodrow Wilson, s'était engagé personnellement à consentir à l'Allemagne des conditions justes et acceptables. Et il ne voulait pas que l'Allemagne ait un sentiment d'amertume puis qu'il veuille avoir des représailles. Donc, il l'avait dit. Mais malheureusement, à ce moment-là, il ne faisait pas le voyage en avion. Hein. Il faisait ça en bateau. Puis, à ce moment-là, il n'y avait pas de Zoom puis de téléconférence, puis il ne pouvait pas s'envoyer de courriel ou d'être sur Messenger pour communiquer puis voir où était rendue la rédaction du traité de Versailles. Ça l'a fait en sorte que la version finale du traité de Versailles était excessivement dur envers l'Allemagne. Donc, la capitulation et les conditions et les sanctions ont été présentées à l'Allemagne qui, ça a pris presque un an là, à tout écrire ça, à tout rédiger, à mettre toutes les conditions. Et l'Allemagne n'était même pas présente à ce processus-là. Et il y avait un reportage où on voyait que pour se faire dire qu'est-ce que ça allait en être, ils sont rentrés dans une salle, ils ont écouté pendant 30 minutes et ils sont ressortis. Ils n'ont pas eu le droit de parler, ils n'ont pas eu le droit de rien dire ou rien demander. La France en voulait tellement à l'Allemagne pour les torts qu'elle avait causés, autant en détruisant le paysage, des musées. Et même s'il y avait plusieurs pays qui étaient associés à l'Allemagne, ceux qui ont perdu la Première Guerre, que l'Allemagne a été désignée comme le pays responsable. La France a exigé que le traité de Versailles soit impitoyable économiquement, socialement, pour la vie de tous les jours des Allemands. Ça, c'était dur, c'était invivable. S'en est suivi une période de pauvreté, une période sombre. C'était invivable et inacceptable. C'est pourquoi, quand l'Allemagne a vécu dans ces conditions-là, pendant une dizaine d'années à peine, quand est venu un homme qui avait un peu de force, puis qui semblait être leur seul espoir pour leur faire sortir de des conditions comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oh, regarde, vas-y, on va te suivre. Et là, ils ont été prêts à accepter l'inacceptable. Hein? Vous savez que je parle d'Hitler. Et exactement 20 ans plus tard, 1919 à 1939, c'est pas long 20 ans, 20 ans plus tard, on partait pour une deuxième guerre où il y a eu des dizaines de millions de personnes qui sont mortes. Et quel a été le pays qui a le plus souffert de la part de l'Allemagne qui a été pris en otage et que les Allemands se sont installés pendant quelques années, c'est la France et c'était pas pour rien. Quelle différence un peu de miséricorde aurait pu faire dans cette situation-là? Bien, on le saura jamais. Et si on l'applique à nous, comment pourrait être notre monde? Comment pourrait être notre entourage avec un peu plus de miséricorde? Combien de portes pourraient s'ouvrir dans notre entourage? Combien de belles opportunités de démontrer l'amour de Dieu pourraient se présenter à nos proches suite à un acte, à une attitude de miséricorde de notre part. Ce qui n'est pas facile, c'est que si dans votre vie, en général, votre enfance, ce que vous avez vécu en général, ce qui vous a marqué, si les gens n'ont pas eu de miséricorde envers vous, est-ce que vous allez être capable d'en avoir envers les autres? C'est extrêmement difficile. Parfois, il faut prendre le temps de réaliser comment certaines personnes marquantes qui ont été là dans nos vies n'en ont pas eu envers nous. Mais avec le Seigneur, on peut réaliser à quel point Dieu nous a fait grâce. On a reçu la miséricorde de Jésus. Et il nous demande de l'être au moins un peu envers les autres. On peut se rappeler la parabole du serviteur impitoyable. Hein? Et Jésus nous a pardonné nos péchés. On n'a plus de condamnation qui est sur notre tête. Il a dit tout ce que tes fautes t'amenaient comme conséquence de séparation éternelle, je te fais miséricorde. Je ne te punis pas de la façon que tu le méritais. Puis en plus de la miséricorde, il nous a fait grâce. Il nous a donné le don de la vie éternelle. Dieu nous a tellement pardonné. Et encore aujourd'hui, dans notre marche avec lui, on ne le réalise pas toujours, mais Jésus est miséricordieux, bien plus que nous à notre égard. Il est compatissant, il est compréhensif, il est patient, il est rempli de bienveillance. Il voit nos efforts, il voit notre cœur qui est là et qui veut continuer à aimer Jésus, à le servir, à le mettre en premier. Puis il voit toutes les déceptions, la douleur qu'on peut avoir dans notre cœur. Jésus est encore rempli de compassion envers nous. Et parce qu'on est ses disciples, il désire qu'on en ait un peu envers ceux qui nous entourent. Et devenir miséricordieux va avoir un effet extraordinaire sur vous. Vous allez le devenir envers vous-même. Certaines personnes se mettent un fardeau lourd sur les épaules. Certaines personnes ont une grande culpabilité. Elles ressentent de la honte. Elles éprouvent du regret. Certaines personnes sont trop sévères envers elles-mêmes. Elles n'ont pas de miséricorde envers elles-mêmes. D'avoir de la miséricorde envers les gens permet d'en avoir avec nous. On va terminer dans la prière. Jésus, on veut te remercier que tu es un Dieu miséricordieux. Seigneur, c'est tellement bon de voir qu'à chaque fois que pharisiens ou même les disciples ou la foule venaient à toi pour te demander de les appuyer dans une condamnation envers une personne, tu n'as jamais acquiescé, même si la conduite de la personne était mauvaise. Merci que tu sais concilier justice et miséricorde. Merci, Seigneur, d'être venu pour nous faire grâce. Merci de savoir de quelle nature nous sommes. Nous sommes faibles. Tout ce qu'on peut avoir comme émotion, Seigneur, c'est l'humilité de dire « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Seigneur, merci de ta miséricorde parce qu'on n'a pas en nous ce qu'il faut pour t'être agréable. C'est seulement par ta grâce. C'est sur la base de ta miséricorde que tu désires nous accepter comme on est, même si parfois on peut t'attrister. Seigneur Jésus, fais de nous des gens qui incarnent cette valeur de la miséricorde. Fais de nous des gens qui ont des entrailles de miséricorde, qu'à l'intérieur, oui, on garde les yeux ouverts, on voit la situation, on est capable de porter un bon jugement. Mais une fois qu'on a bien évalué la situation, qu'on est capable d'amener cette bonté-là, cette compassion, de se mettre à la place de l'autre, d'avoir de la compréhension. Merci, Seigneur, pour l'enseignement de ta parole et touche nos cœurs et fais-nous du bien. On te le prie en ton nom. Amen. Merci.